Bonjour tout le monde, on attaque. On va faire en sorte de finir officiellement à 17h. À 17h, je libère, et si jamais on voit qu'on a encore une demi-heure ou une heure et qu'il y en a qui veulent qu'on continue à parler d'argent, avec plaisir. C'est bon ? Moi, je suis excité comme une puce, parce que c'est des sujets que j'aime, c'est des sujets tabous, c'est des sujets, voilà, avec plein de questions derrière, donc j'aime beaucoup parler de ça. On commence quelques minutes, on vous a fait un sondage un peu au dernier moment, mais c'était pour, comme ça, avoir des idées. J'espère juste que vous n'avez pas trop triché, parce que quand on parle aussi d'argent, il y a quand même une notion de chiffre, et on se rend compte souvent que, ou parfois en tout cas, que les chiffres, ce n'est pas naturel pour tout le monde. Première question. Si on me dit, une personne va regarder mes comptes bancaires pour voir si je gère bien, je ressens de la joie, elle va m'aider, je n'ai rien à cacher, 80%, donc un peu plus que les trois quarts des gens qui disent ça, du stress, alors personne n'est stressé, hein. Il y a 50 réponses, vous êtes 75 à peu près, il y a 50 réponses, il n'y a personne qui a du stress, et de la honte pour 17%, un peu moins d'un quart. 17% de la honte, je vais être gêné qu'elle voit mes dépenses. C'est bon ? Il n'y a pas de commentaire, juste je descends. Tu peux descendre. Deuxième question. Alors vous allez voir, à un moment donné, il y a un camembert, je me dis que tout le monde a répondu une réponse différente. Je suis généreux, c'était quoi ? C'était 10, je suis très généreux, et 0, je ne suis pas du tout. Alors ces sondages-là, parfois, ils sont un peu faussés, parce qu'il y a des gens qui n'osent pas trop dire « je suis très généreux », il y a des gens, ils mettent 6 ou 7, peu importe la question. D'accord ? Mais c'est quand même intéressant que personne se considère comme profondément radin. Non, c'est encourageant. C'est encourageant quand même qu'il n'y a personne qui a répondu 0, 1, 2 ou 3. Donc ça, c'est bien. Et j'ai pas les noms, je répète que c'est anonyme. Donc vraiment, soyez détendus. Parce que c'est des sujets tabous. Donc du coup, il y a un côté émotionnel, il y a un peu de stress qui va arriver. Donc on se détend. Et moi, je suis détendu. C'est bon ? Le troisième, si tu peux me le mettre. Alors, c'était quoi la question ? Je peux gérer l'abondance et le manque. Ben, un peu comme la première question, trois quarts des gens qui disent oui. Alors oui, je ne vais pas poser la question, est-ce que vous avez déjà vécu les deux extrêmes ? Donc il y en a forcément. Et peut-être qu'il y en a aussi une partie qui n'a jamais vécu l'un ou l'autre. Mais voilà. Et un quart où c'est compliqué de gérer l'un ou l'autre. Après, des questions, parce que souvent on pense que les gens sont, ça dépend de quel milieu on vient, ça dépend de beaucoup de sujets, mais souvent on a des a priori qui ne sont pas du tout dans la réalité. Alors je l'ai fait pour la France, hein, parce qu'il y a des amis de Belgique, de Suisse et du Luxembourg, si j'oublie personne. J'ai fait pour la France. Salaire moyen. Moyen, c'est je prends les gens très pauvres, je prends les gens très très riches, et je prends tout le monde, et je divise par le nombre de personnes. Ça, c'est une moyenne. D'accord ? C'est bon ? Donc en fait, quand j'ai quelqu'un d'extrêmement riche, il peut y avoir beaucoup de gens avec des salaires très ordinaires, la moyenne, elle monte. D'accord ? Et c'est important de l'avoir en tête. Ah mais oui, mais il vous faut les réponses. Et sur les réponses, le salaire moyen, j'ai quand même les trois quarts qui disent 1 500 € par mois, en moyenne. Salaire moyen équivalent temps plein, donc c'est-à-dire des gens qui travaillent à temps plein en France, la moyenne, c'est 2 700 €. D'accord ? À moyenne, un Français salaire net par mois dans le privé, mais dans le public c'est quasiment pareil, c'est 2 700 € par mois, en moyenne. Mais ça veut dire qu'en fait, il y a une toute petite partie des gens très très riches qui fait vraiment monter la moyenne vers le haut. Donc c'est pour ça que le chiffre d'après, le salaire médian, donc la moyenne, on prend du plus pauvre au plus riche, on additionne tout ça, on divise par le nombre de personnes. Salaire médian a parfois plus de sens, c'est qu'il y a la moitié des Français qui sont en dessous, la moitié des Français qui sont au-dessus. C'est bon ? Et là, vous avez répondu, ceux qui ont compris la question, vous avez répondu 37%, 35%, 2 000 € par mois et d'autres 1 500 € par mois. Donc déjà, il y en a qui n'ont pas fait le lien entre les deux questions. Parce que normalement, entre la moyenne et le médian, il y a quand même un petit côté où il y a un lien. Mais pour dire, il y a 70% des gens, 70% d'entre vous, qui pensaient que la moitié des gens gagnent moins de 2 000 € par mois. Et donc la moitié qui gagne plus. Peu importe que ce soit 2 001 € ou 200 000 € par mois. Hein. D'accord ? La médiane en France, on est à 2 200 €. 2 180. Donc il y a la moitié des Français qui gagnent moins de 2 180 € et la moitié qui gagne plus. C'est bon ? Ça vous permet d'avoir des repères comme ça ? Je remonte. 2180. Le coût, alors ça, c'est des questions que j'aime bien parce que les gens n'ont aucune notion souvent. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont déjà posé la question, comme, alors j'avais déjà fait il y a 3 ans ou 4 ans, ou 5 ans, je ne sais plus quand. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont déjà posé la question combien ça coûte un culte ? Vous n'êtes jamais posé la question ? Parce que c'est gratuit, c'est ça ? Alors là, j'aime bien les réponses. Donc un culte pour une église comme la nôtre, donc par rapport ici, j'ai bien pris en compte de ne pas valoriser le service des bénévoles. Ça veut dire qu'il y a énormément de frères et sœurs qui servent contre aucune rémunération. Donc ça, je ne le valorise pas. Okay ? J'ai juste pris en gros ce qui sort des comptes bancaires. Ça veut dire que pour avoir un culte ici, combien ça coûte ? Et j'aime beaucoup parce qu'il y a une grande diversité. Un culte, j'en ai qui m'ont marqué 200 euros, j'en ai qui m'ont marqué 1000 euros, j'en ai qui m'ont marqué 2500 euros pour un culte. C'est bon ? Et vous voulez savoir la réponse ? Je ne l'ai pas remarqué. C'était combien la réponse que j'avais dit ? Non, ça c'est par personne. Ouais, c'était 8000 euros. Par mois, pour 4 cultes. Donc ça fait 2000 euros. Un culte, c'est 2000 euros. Un culte, ça coûte 2000 euros. Je vous le dis très simplement ici, c'est que vous avez un bâtiment, c'est 4000 euros par mois. Par mois, c'est 4000 euros pour le bâtiment. Vous avez les assurances, vous avez le chauffage, vous avez la lumière, vous avez le vidéoproche, vous avez la chaise sur laquelle vous êtes assis, vous avez la sono, vous avez tout ça. Donc en gros, dans un mois, ça coûte 8000 euros. L'achat de la salle, si c'était une location, c'est pareil. Location, 1000 euros par week-end, un bâtiment comme ici, c'est ça. C'est bon ? Donc à peu près, c'est un ordre de grandeur, 8000 euros pour 4 par mois, pour 4 week-ends. Donc ça fait 2000 euros pour un service. C'est bon ? Déjà, je vous ai... Ça va ? La question d'après, et ce qui est très drôle, et c'est là que je me dis qu'il y en a quand même qui en maths, c'est que normalement, je prends la question d'avant, je divise par 200, et j'ai la valeur. Ah non, il n'y avait pas la réponse en haut. Mais normalement, ce que vous avez répondu en haut, si vous divisez par 200 personnes, j'arrive au coût moyen. Sauf que là, quand je vois les deux couleurs, il y en a beaucoup qui n'ont pas divisé les deux. C'est bon pour tout le monde ou pas ? Normalement, il y a un lien entre les deux. Vous divisez par 200, vous avez le chiffre d'après. Et quand vous regardez les deux couleurs, ça ne cadre pas. Donc il y a la moitié des gens, à mon avis, qui ont... Voilà, je passe. J'ai mis 200 personnes. Alors, on n'est pas 200 tous les dimanches. On est un peu plus. Je n'ai pas compté les enfants, mais pour 200 personnes, pour faire un chiffre rond. Donc comme je vous ai dit que c'était environ 2000 euros pour un culte, ça veut dire qu'une personne, le coût de revient, c'est dans les 10 euros. C'est dans 8 ou 10 euros pour un culte. Pour le bâtiment, pour le chauffage, pour la lumière, pour le micro, pour la pile, pour tout ça. Pour le café, etc. C'est bon ? Ça vous donne une idée ? Pourquoi je dis des choses comme ça ? Parce que de temps en temps, je me dis, si par exemple, dans le mois, j'ai donné 4 fois 8 euros, j'ai donné 36 ou 40 euros à la fin du mois, en fait, j'ai juste payé le fonctionnement pour ma place. Si j'ai donné 40 euros ou 30, 35, 40 euros à la fin du mois, j'ai juste payé le fonctionnement pour ma place. Quand vous allez au cinéma pour voir un film, vous payez pour le film, les gars qui ont les réalisateurs, le producteur, mais vous payez pour le chauffage, pour la climatisation, pour le fauteuil qui est abîmé, pour tout ça. C'est bon ? Mais il n'y a pas à payer, hein. C'est gratuit. On va dire plutôt c'est offert. C'est offert. Ça veut dire que tu peux venir le dimanche matin et ne jamais rien payer, et passer 30 ans sans rien payer. On peut. Il n'y a personne qui vous fera le reproche ou quoi que ce soit. On peut. Parce que c'est gratuit. Mais ça a un coût. Et c'est quelqu'un qui m'a partagé comme ça, qui m'a dit, moi je fais bien la différence entre ce qui est gratuit et ce qui est offert. Ce qui est offert, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a payé pour toi. C'est bon ? C'est parce qu'on parle des finances. Hein. Le dimanche, je ne le dis pas comme ça tous les dimanches, on est d'accord. Hein. Est-ce que ça aide à... Donc ça, c'est pour agrandir aussi le sujet, parce que c'est pas du tout le même sujet de ce qu'on vit, nous, dans notre quotidien, de ce que vit l'Église persécutée, de ce que vit beaucoup d'endroits dans le monde où il n'y a pas du tout le revenu ou le style de vie qu'il y a chez nous. D'accord ? Mais c'est bien aussi de l'avoir en tête pour avoir une idée comme ça. Combien de personnes vivent avec $1 par jour dans le monde ? J'ai des gens qui m'ont écrit... Alors attendez, je cherche des petits. Alors, c'est bien d'avoir des notions quand même. Hein. Entre 1 million et 1 milliard... Combien il y en a qui savent tout de suite la différence entre 1 million et 1 milliard ? et qui sont sûrs d'eux, hein. Entre 1 million et 1 milliard. Ben vas-y. C'est quoi ? 3 zéros de plus. Oui, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est 1000 de plus. C'est 1000 fois. Entre 1 million et 1 milliard, il n'y a aucune commune mesure. Sauf que quand on écoute les infos, des fois on vous dit c'est 50 millions, des fois on vous dit c'est 2 milliards. Mais c'est 1000 fois plus. C'est bon ? C'est énorme la différence. Sauf que 2 milliards, vous voyez 2, vous dites c'est petit 2. Et peut-être que vous allez voir 700 millions. Mais 700 millions, c'est 3 fois moins que 2 milliards. Et pourquoi je dis ça ? Parce que très souvent dans les chiffres, il y a des notions qu'on n'a pas. Et alors ça, c'est, je sors du cadre parce que ça ne nous concerne pas nous personnellement. Ça ne concerne pas ce dont on va parler après, mais c'est pour avoir des idées. Donc dans le monde, j'arrondis, il y a 8 milliards de personnes. 8 milliards en tout. Qui vivent avec moins de 5 dollars, il y a 3,4 milliards. 5 dollars par jour. Hein. Donc avec 5 dollars par jour pour manger, pour vous vêtir, pour vous loger, impossible. Et c'est 3,4 milliards. Ça veut dire que la pauvreté, la misère, c'est des vrais sujets. C'est bon ? J'ai 1,9 milliard avec moins de 3 dollars. 2 milliards, c'est presque un quart. Un quart de la population mondiale vit avec moins de 2 dollars par jour. Ce n'est pas pour nous faire culpabiliser, mais c'est des choses qu'il nous faut avoir en tête. Et donc, par rapport aux chiffres là, alors je n'ai pas trouvé avec 1 dollar, j'ai trouvé avec moins de 2 dollars, 720 millions de personnes. Ça veut dire que c'est 10 fois la France. Chaque fois que vous voyez un Français, il y en a 10 dans le monde qui vivent avec moins de 2 dollars. Par jour. C'est bon ? Et réellement, ce n'est pas pour culpabiliser, mais c'est pour ces notions-là, il faut quand même avoir un peu des notions. Et dernière question qui était justement exprès pour exciter tout le monde. Le Nouveau Testament parle-t-il plus du salut ou d'argent ? C'est une question piège, biaisée, c'est une question qui ne va pas, mais c'est fait exprès. Ça dépend comment on compte, c'est là que je sais. Mais globalement, les sujets d'argent, de finance, etc. sont très souvent abordés, très très souvent, et on va le voir ensemble, très souvent. Mais ils ne sont pas abordés dans le sens que pour nous, pour ma situation. Ils sont très souvent abordés pour décrire des situations spirituelles, pour décrire des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et comme nous, on est câblés par rapport au salut, par rapport aux choses du royaume, on n'interprète pas de l'autre côté. Alors que je pense que l'interpréter de l'autre côté, ça nous enrichit énormément. Parce que Jésus, quand il expliquait, il prenait les sujets financiers, économique, etc., pour expliquer des réalités spirituelles. Je reformule. Comme nous, on est câblé salut, royaume de Dieu, prière, vous voyez, ces sujets spirituels, on ne fait pas forcément le lien avec le côté naturel, financier, économique. C'est bon ou... En introduction, c'est juste 4 idées, c'est le plan de ce qu'on va voir cet après-midi. Premier point, c'est que c'est un sujet passionnant. Moi, c'est des sujets que je kiffe. Et je voudrais vous montrer pourquoi c'est si passionnant, les finances, l'argent et tout ça au sens assez large. En deuxième, c'est un sujet qui peut très vite devenir malsain. Vraiment, très très vite. Et il y a des dangers évidents. Tout le monde l'a eu ou pas ? Tout le monde l'a ? Super, il y a peut-être que j'ai fait au hasard. Hein. Merci. Deuxièmement, c'est un sujet qui très vite peut venir malsain, avec notamment des erreurs ou des dangers qui peuvent très vite survenir. Troisièmement, on va faire appel à des amis. Appel à des amis, c'est j'ai pris 2-3 exemples, 4 exemples, des choses extérieures, pour se dire mais comment on combine entre les deux. Ouais, tu peux. Merci. Comment on combine entre les deux. Il y a beaucoup de cases vides, de places vides, c'est pour vous si vous voulez écrire dessus, prendre des notes et je vous enverrai le document rempli. Et en dernier, la question c'est et nous dans toute cette histoire. C'est-à-dire de voir les grandes lignes et pour le ramener à nous. Moi souvent les gens ils pensent que alors je commence tout de suite par ça, par le fait que ce soit un sujet absolument passionnant. Les gens, ils pensent, quand je dis que je fais la gestion de patrimoine, tous, ils pensent que je vais les aider dans leur compte bancaire personnel parce qu'ils sont à découvert. Alors clairement, ce n'est pas mes clients, dans ma vie séculière, ce n'est pas mes clients et ce n'est pas du tout ce que je fais. Et je ne suis pas là, et je ne suis pas forcément le premier à être un très bon gestionnaire dans mes comptes personnels à l'euro près. Donc ça, je veux l'introduire et le fermer tout de suite. Ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de voir plus grand, de voir plus haut, de voir ce que Dieu a à partager par rapport à tout ce sujet-là. Plus que la situation personnelle. C'est de comprendre les grandes lignes de ce que nous dit la parole de Dieu, le royaume de Dieu par rapport aux finances. Témoignage très rapide, quand j'avais, je ne sais plus, 22, 23 ans, il me restait 6 mois d'études pour avoir un métier extrêmement rémunérateur. D'accord ? Et j'ai senti Dieu qui me disait non. Ce n'est pas évident, hein, parce que tu t'es dit, je fais un métier très rémunérateur, je suis sûr d'avoir le boulot, et je travaille, allez, les calculs, j'ai fait dans ma tête, hein, je travaille 5 ans, j'ai assez pour vivre toute ma vie. Et j'ai senti que Dieu me disait non, ce n'est pas ce que je veux. C'est des vrais choix, hein, parce que quand c'est des choix que tu n'as jamais à avoir, tu te dis, souvent on se dit, moi si j'avais beaucoup, je gérerais bien. Alors déjà, c'est pas vrai. Il y a un gars qui est allé voir Rick Warren, celui qui a écrit Une vie motivée par l'essentiel. Et le gars le rencontre et lui dit, à moi si j'avais tous vos revenus, je gérerais tellement bien. La petite histoire de Rick Warren, c'est qu'il vit avec 10% de ses revenus. Depuis très longtemps. Alors aujourd'hui, il gagne des fortunes, beaucoup d'argent parce qu'il a vendu énormément de livres. Mais le choix de sa vie, ça a été de vivre avec 10% de ses revenus. Et il explique, quand il avait très peu, alors 10% peut-être pas, mais quand il avait très peu, il gérait très bien. Et quand il a eu très beaucoup, ben, il gère très bien. Et souvent, on a de l'extérieur des gens qui nous disent, si j'avais plus, je pourrais faire. Je gérerais tellement bien si j'avais beaucoup. Et clairement, c'est pas vrai. Et je pense que Dieu m'a conduit dans le fait de renoncer à ça, à vaincre quelque chose. Alors, je ne l'ai pas vu tout de suite, en me disant j'étais libéré par rapport à l'argent, par rapport à ces sujets-là. Mais clairement, spirituellement, ça fait quelque chose. Dans mon âme, dans mon esprit, ça fait quelque chose. Après, j'ai travaillé pendant 15 ans aux impôts. Et depuis 4-5 ans, je fais la gestion de patrimoine. Et c'est comme l'image qu'on en parlait tout à l'heure, par rapport aux docteurs. Quand les docteurs, en fait, toute la journée, ils voient des gens, ou parfois, ils se déshabillent. Je vois l'épaule des gens, je vois la bouche. Donc, le docteur, par rapport au corps humain, il a une approche qui n'est pas la même que vous et moi. Parce que vous et moi, on voit pas des gens comme ça qui se déshabillent ou des trucs comme ça. Et bien, c'est le même sujet pour moi avec l'argent. C'est comme tous les jours que je vois des gens et que je discute d'argent, en fait, ça rentre dans ma tête, ça sort. C'est comme les comptables. Les comptables, tous les jours, ils voient des chiffres. Ils n'ont pas d'appréciation, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Vous voyez, c'est objectif. C'est bon ça ou pas? C'est-à-dire qu'on n'est pas câblé. Moi, j'ai des gens qui me disent « Ah, mais si je lui dis ce que j'ai, etc., il va... » Mais pas du tout. Je fais ça tous les jours. Donc, tous les jours, je vois des comptes bancaires. Tous les jours, je demande aux gens combien ils gagnent. Donc, il n'y a pas de sujet là-dedans. C'est bon ? Deuxièmement, je vous ai mis, c'est un sujet dans l'introduction. Non, c'est le premier sujet. C'est moi qui ne l'ai pas. J'ai perdu, ils discutent, ils boivent du café. Sujet passionnant. Le deuxième, c'est que c'est un sujet miroir. Pour moi, c'est des sujets où ça reflète tellement qui nous sommes. Quand on parle d'argent, ça reflète tellement. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. J'ai l'impression que c'est un miroir. C'est comme si un miroir en face de vous. Vous regardez quelqu'un, ses comptes bancaires, vous regardez comment il gère les sous. Ça renvoie à tellement de sujets. Ça renvoie à l'identité. Alors l'exemple que j'avais, moi, c'est quand le gamin était petit, il jouait au foot. Et les papas du foot, vous aviez l'impression qu'ils avaient tous une grosse voiture. Il était à l'école privée. Et vous avez l'impression que les parents à l'école privée, ils avaient tous des grosses voitures. Et parce que les deux mondes... Alors, il y en a qui pouvaient se le payer, il y en a d'autres, je ne suis pas sûr du tout, je pense qu'ils ne pouvaient pas, mais ça renvoie à l'identité. Parce que j'arrive, j'ai une grosse voiture. Parce que ça renvoie à ton identité, ça renvoie à ton style de vie, ça renvoie à tellement de choses. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, et ce n'est pas une histoire d'avoir beaucoup ou pas beaucoup. L'argent, ça reflète qui nous sommes. C'est comme la nourriture, c'est comme l'état de notre maison, c'est comme tout ça. Ça, c'est un miroir qu'on a face à face. C'est bon ? Après, je vous ai mis que moi, j'aimais ce sujet. Parce que ça renvoie à la psychologie, ça renvoie à la confiance en Dieu, ça renvoie à un sujet où il y a tellement besoin de guérison. Il y a tellement de besoin de guérison chez les frères, chez les sœurs. C'est des sujets où, quand vous faites une décision ou un choix, parfois ça nous impacte pendant 15, 20, 30 ans. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens, parfois ou souvent, ne s'en rendent pas compte. Je vais vous lire, je ne sais plus si je vous l'ai mis, Luc 16, versets 9 à 11. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, alors celui-là on le connaît par cœur, hein. Celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle dans les grands. Ce verset-là, on l'a tous les jours, tout le monde le connaît. Par contre juste, je vous l'ai mis dans le passage ou pas ? C'est le seul qui manque. Luc 16, versets 9 à 11, et vous avez de la place dessous pour pouvoir le mettre, vous voyez, je suis gentil. On se rappelle que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, mais on ne se rappelle pas du passage avant et du passage après. Et juste avant, il parle des richesses éternelles, des richesses injustes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Et les richesses injustes, moi, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était tout ce qui va être de l'argent avec une origine, on va dire, illégale. On va dire que c'est ça, c'est quelque chose qu'on a gagné, mais pas d'une bonne manière. Et là, quand on lit le texte dans le détail, qu'on rentre dans le détail, c'est pas ça. C'est tout ce qui est des richesses du monde autour de nous. Tout ce, on vit dans un monde qui est déchu, qui n'a plus les principes et les valeurs du royaume de Dieu. D'accord ? Et ce monde-là est rempli de richesses, mais injustes. Et Dieu, parfois, nous les confie, même très souvent, nous les confie, pour que nous, nous les gérions bien. C'est bon ? Et si on les gère bien, ces richesses, que ce soit ton salaire, que ce soit, peu importe d'où vient l'origine de cet argent, si on les gère bien, Dieu il nous dit, comme vous avez été fidèle dans ces choses-là, notamment mon environnement économique et financier, eh bien, je suis capable de t'en confier des plus grandes. Et les plus grandes, c'est aussi de se dire, je vais encore te confier des choses spirituelles, parce que tu as été capable de gérer ce qui était autour de toi. C'est bon ? Je vous ai perdu ou pas ? Sujet délicat. J'ai marqué délicat pour être gentil avec tout le monde. 1 Timothée 6, verset 10, car l'amour de l'argent... Ah ! Vous ne l'avez pas, il y a des petits points. Je vous laisse... dites pas la réponse, vous soufflez pas, vous ne lisez pas dans la Bible. Vous pouvez remplir ? Alors, dis-moi juste les mots en pointillé, juste que toi, tu as rempli. La racine ? Ok. D'autres ? La source ? T'as mis quoi ? La source ou une source ? Source. Responsable, ouais. D'autres ? Vous avez mis quoi là-bas ? Quoi ? Ouais, mais il manque un mot. La racine ? À la racine. Ouais, alors non. C'est... Alors mon sujet, il est. Origine ? Alors le texte, c'est une. Une racine. Et là, je vois qu'il y en a 99% qui ont mis c'est la racine. Dans la Bible, c'est marqué la racine ? Ben, il faut changer de version. C'est une racine. Oui, mais c'est pas pareil. Sauf que de mémoire, tout le monde dit c'est la racine. On a l'impression que l'argent, c'est le problème du monde entier. Ça n'est, c'est un vrai problème, un vrai sujet, mais c'est une. La différence, si c'est la racine, ça veut dire que c'est le problème et il n'y a que celui-là. Si c'est une racine, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Ça veut dire que si on met la racine, ça veut dire que c'est uniquement l'argent qui est le problème de tous les maux, de tous les problèmes. Alors que si on met c'est une racine, ben il y a d'autres sujets. C'est pas que l'argent qui est le sujet. C'est pas que l'amour de l'argent qui est le problème. Il y a d'autres problèmes qui sont à l'origine de problèmes. C'est bon, le « la » et « une » ? Ça veut dire que parfois, quand il y a quelque chose qui se passe... Quand il y a quelque chose qui se passe, ça produit ça. Mais ce n'est pas parce que ça qui est produit, c'est uniquement ça. On le voit après. La nuance, elle est importante. Une racine, ça veut dire qu'il y a aussi d'autres sujets par rapport à ça. Et dans la Bible, je continue Luc 6, verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon, vous pouvez balancer des idées comme ça. Qu'est-ce que vous pensez que c'est au sens large ? Mammon, idole de l'argent, dieu de l'argent, un démon de l'argent, un esprit, Mammon, idole de l'argent, on va voir les deux. Ce que Mammon est, en fait, c'est pas une personne. Jésus, il parle de Mammon comme une personne. On personnifie quelque chose, mais c'est pas un esprit ou quelqu'un. C'est important. C'est pas un esprit ou quelqu'un. Ben, pourquoi ? J'en sais rien, moi. Moi, c'est la Bible qui compte. Esprit de Mammon. Je vous ai fait lire le livre ? Qui n'a pas lu le livre ? On va faire dans l'autre sens. Qui n'a pas lu ? Alors on va faire dans l'autre sens. Qui a lu le livre ? La moitié du livre ? Ok, merci. Donc, juste parce qu'en fait, il y a beaucoup de questions sur la dîme. Dans les questions qu'il y avait, il y a beaucoup de questions sur la dîme. Le bouquin l'explique très bien. Donc qu'à la fin, on puisse prendre 5-10 minutes pour discuter de la dîme avec plaisir. Mais le bouquin l'explique très bien. Donc moi, l'idée, c'était de parler d'autre chose que uniquement le livre. Mais merci. Maman, c'est un maître. J'ai bien aimé la phrase, je sais plus, c'est Olivier qui a dû le dire, sur l'idolâtrie. C'est une puissance d'attachement, c'est une idole dans notre cœur, c'est un rival de Dieu. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est un rival de Dieu. Tout ce qui est rival de Dieu, ça nous coupe de Dieu lui-même. Et c'est pour ça que c'est dangereux. C'est pour ça que c'est tabou, parce que ça va prendre petit à petit la place de Dieu. Ça va créer, ça peut créer chez les gens un attachement. C'est bon ? Et en même temps, c'est pas une personne historique, c'est pas un dieu païen, parce que parfois les gens ils pensent que c'est un dieu, une divinité. Ce n'est pas ça. C'est plus comme une mentalité. C'est bon ? Et il s'oppose à Dieu, je vous ai mis ça, je vous l'aurai, vous pouvez prendre des notes si vous voulez, mais il s'oppose à Dieu parce qu'il promet la sécurité, c'est ce que fait l'argent. C'est pour ça qu'il y a cette rivalité entre Dieu et tout ce qui est de mammon. C'est comme ça promet l'argent, comme il y a l'argent, il y a cet attachement. Beaucoup de frères et sœurs chrétiens, enfin frères et sœurs, voilà, chrétiens, et beaucoup aussi de gens pas chrétiens, évidemment, on a l'impression qu'il y a une sécurité. Le fait d'avoir de l'argent fait qu'on a l'impression qu'on est sécurisé et en sécurité. Or, l'Évangile ne nous dit pas ça. Ça, c'est une première image. Le deuxième, c'est la loyauté. C'est que très souvent, quand les gens ils servent l'argent, on a tendance à en vouloir plus, et ça crée comme une déloyauté avec les choses de Dieu. Et c'est très difficile d'avoir l'équilibre entre l'argent et Dieu. Et cette loyauté, il faut qu'elle soit toujours vers l'Évangile et vers Dieu. Et Dieu va nous aider à gérer ça. Autre chose, c'est que ça gouverne notre cœur. Vous connaissez ce verset, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et ça veut dire que si notre cœur il est attaché aux choses de l'argent, ben c'est là où est notre cœur, il suit le trésor. C'est bon ? J'ouvre une parenthèse, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais ne me disputez pas maintenant. Les sujets-là, ils concernent qu'on ait de l'argent ou qu'on n'en ait pas. Très souvent, les gens ils pensent que, de toute façon, moi, j'ai pas forcément, je vis le manque, je n'ai pas forcément d'argent. Je suis beaucoup moins concerné par les sujets de ça. Et on n'est pas obligé d'être d'accord. Hein. Et je suis persuadé de moi, c'est la même chose. C'est la même chose, qu'on vive dans le manque ou dans l'abondance. C'est les mêmes sujets derrière, c'est les mêmes trames. Comment il s'appelle le Roumain, dont j'oublie tout le temps le nom ? Joe, comment il s'appelle le Roumain qui a vécu je ne sais pas combien d'années en prison ? Je ne sais plus combien il a passé, 30 ans en prison ? Je ne sais plus, des années en prison, je crois que c'était en Roumanie, en Europe de l'Est, quand c'était soviétique, et il était enterré sous terre. Et lui, il questionnait des passages de la Bible. Quand Dieu il dit « Marie, aimez vos femmes », et il questionne Dieu en disant « ben, c'est facile pour celui qui a une femme qui est bien ». Celui qui a une femme qui est méchante, pénible et insupportable, le verset est plus compliqué. Et vous avez des échanges de ce gars qui a passé en prison avec Dieu par rapport à un verset comme ça. Le cerveau est compliqué après. Mais là où je veux en venir, c'est que les sujets financiers, c'est pareil. Il ne faut pas croire que parce qu'on est dans l'abondance ou parce qu'on est dans le manque, ben si on est dans le manque, ça ne s'adresse pas trop à nous. Celui qui a beaucoup, pour lui, c'est facile de donner. Pour lui, c'est facile d'être généreux puisqu'il a beaucoup. Ce qu'il va donner, c'est du superflu, c'est des choses en plus. Donc pour lui, c'est facile. Ça, c'est quand je suis allemand que je dis ça. C'est les mêmes principes. Quand Dieu nous dit d'aimer nos femmes, peu importe qu'elles soient formidables ou qu'elles soient une peste. Le verset biblique, il ne change pas en fonction de la nature de l'épouse. Ben pour l'argent, c'est pareil. Ce n'est pas en fonction de moi, c'est en fonction de ce que dit la parole de Dieu. C'est bon ? Et par rapport à maman, c'est pour ça que je dis que c'est un sujet très délicat, c'est que j'ai l'impression que le premier sujet, c'est qu'on a peur d'aimer l'argent. Quand, si jamais on a un peu plus, à un moment donné, si on a un peu plus, on a peur d'aimer ça. Et dans nos têtes, souvent, on n'arrive pas à l'aligner avec les choses du royaume de Dieu. Il y a cette peur, cette crainte, et c'est un combat pour beaucoup. Réellement, c'est un combat pour beaucoup. Et de l'autre côté, quand on l'a vaincu, qu'on est libre par rapport à l'argent, on a l'impression que comme c'est un sujet tabou, on n'ose pas trop l'aborder. On n'ose pas trop l'aborder parce que c'est un sujet tabou. Moi, je me rappelle une fois, j'ai prêché sur la dîme et j'avais dit ce que je vous ai dit juste avant. La dîme, ça fait partie des bons repères, que c'est très bien de donner une partie à Dieu. Et au fond de la salle, je l'ai entendu, j'étais devant, ce n'était pas ici, c'était à Chalon-Villard, la personne dit « c'est facile pour toi parce que tu gagnes ta vie ». Et une autre fois, j'ai un ami qui m'envoie une photo avec un chèque de, je crois qu'il avait fait un chèque de 2000 euros, ce n'était pas ici, c'est pas ici. Et il avait dit « regarde ce mois-ci la dîme que je peux donner ». Un chèque de 2000 balles. Et c'est quelqu'un qui a commencé avec zéro. Mais quand il était étudiant, il donnait la dîme. Il n'avait rien. Et ce n'était pas quelqu'un qui vient d'une famille aisée, il n'avait rien. Et un jour, il a fait un chèque de 2000 balles. Et on a discuté, et il me dit, Pierre, c'est aussi l'un ou l'autre. Alors si vous êtes ouin et sain, vous allez vous dire, c'est une joie de donner, que je n'ai pas beaucoup, que j'ai beaucoup. Et lui, dans la discussion, il disait, ben, c'est quand même difficile, ça demande quand même une obéissance. Et quand tu fais un chèque de 2000 balles, tu sais aussi que tu peux en faire d'autres choses de tes sous. Et de la même manière, quand tu es étudiant et qu'il avait zéro, ben, ça coûte énormément. Ça coûte énormément. Et je me suis fait disputer parce que j'avais dit ça, et au fond de la salle, il y a quelqu'un qui m'a dit, on voit que c'est parce que tu n'as jamais manqué. La question, elle n'est pas là-dessus. C'est juste la parole de Dieu. On en discute après, et voilà. Je donne les grandes lignes. C'est bon ou...